Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal, présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire ce matin, le parquet a bouclé l'enquête sur la mort en juillet 2023 de l'ancien ministre des Transports et député national, Chérubin Okende. D'après le procureur général, près la Cour de cassation, Firmin Vendée, vous allez l'entendre en début de ce journal, Chérubin Okende s'était suicidé. Un nouveau bac d'une capacité de 30 tonnes a été mis à l'eau hier jeudi au site Chani Metal ici à Kinshasa. Baptisé bac de l'Ediba, il va assurer la traversée des personnes et autres biens sur la rivière Kwa entre les villages de l'Ediba et Massiakwa dans la province du Maïndombé. L'invité de ce journal est le directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. Charles Balaguizi parle de la sécurisation du matériel de surveillance des volcans installés dans certains quartiers et qui sont souvent vandalisés par des inciviques. Voilà pour le titre, les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour. Chérubin Okende s'était suicidé en se tirant une balle dans la tête à partir de la tempe. C'est ce qu'a affirmé hier jeudi à Kinshasa le procureur général près la Cour de cassation lors d'une communication dans son cabinet. Firmin Vendée ajoute cependant que des questions demeurent sur les causes réelles de ce suicide. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jeff Ngoy.
Au jour d'aujourd'hui, je le répète, je suis rassuré parce qu'au terme de toutes ces enquêtes, nous avons les conclusions en ce qui concerne la mort de Sieur Chérubin Okende. Il y a eu le recours aux experts et les expertises consistaient en la balistique, dans les télécommunications, dans l'autopsie avec les médecins légistes, ainsi que à la toxicologie. De toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Chérubin Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, Sieur Feu Chérubin Okende s'est suicidé. Vous pouvez peut-être vous poser la question, pourquoi nous avons attendu si longtemps? Il n'y a pas eu question d'attendre si longtemps. Nous avons mené des enquêtes de manière méthodique. Nous ne pouvions pas conclure aussi longtemps que toutes les expertises ne s'étaient pas encore exprimées. Cela veut dire quoi? Que nous attendions les rapports des uns et des autres.
Au cours des enquêtes, ajoute le procureur général près la Cour de cassation, les enquêteurs ont découvert une phrase dans l'agenda du défunt qui disait ceci, « Je suis au bout du rouleau ». Pourquoi avait-il écrit cela, s'interroge le procureur, précisant que les enquêtes vont se poursuivre. Par ailleurs, les cas de viol collectif perpétrés lors de cambriolages, on en parle encore à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. C'est la société civile locale qui tire la sonnette d'alarme. Le dernier cas s'est produit dans la nuit du 22 au 23 février dernier dans la commune de Roissy. Cette structure citoyenne demande à la police d'être proactive dans ses interventions pour empêcher les malfrats à commettre ces actes dégradants. On écoute Bertin Chose, responsable du groupe thématique gouvernance sécurité RP, au cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga. Il est au micro de Jean Gandou.
Beaucoup de cas de cambriolage sont toujours couplés de viols collectifs. Ce mois, nous avons enregistré 9 cas. Et c'est trop dans la commune de Lubumbashi, au niveau du quartier Jekamine, la commune de La Roissy, la commune de Kampemba. Nous avons aussi la commune annexe, quartier Kalebuka. Nous dénonçons cela parce que nous ne pouvons pas accepter que ces choses-là reviennent dans notre société. Ça a des impacts négatifs sur la vie de nos familles ainsi que la vie de nos victimes. À chaque instant que nous demandons aux victimes ou aux familles des victimes de porter plainte contre l'inconnu, parce que souvent ces gens s'échappent, ils nous disent ceci. Quand les gens viennent dans la maison, ils prennent tout ce que vous avez comme argent, et après quand vous allez auprès des instances judiciaires, on commence encore à vous demander de l'argent. Ça décourage. Du côté de la police, nous avons vu que les niveaux de réaction deviennent trop timides. Les temps de secours doivent être raccourcis pour que ces gens-là n'aient pas le temps de faire des bêtises.
Notez qu'ici à Kinshasa, une agence de Western Union située à Bandal Tibangu a été attaquée hier jeudi aux environs de 21h par des braqueurs. Selon les premières informations, les assaillants ont réussi à s'enfuir avec une importante somme d'argent. Pour besoin d'enquête, un agent trouvé sur place a été arrêté par les services de sécurité qui sont arrivés peu après l'attaque. Et puis, l'insécurité constitue un frein au développement d'une nation. D'où l'importance pour les jeunes de l'Ituri d'éviter toute forme de manipulation des ennemis de la paix qui vise à déstabiliser la province. C'est l'essentiel du message lancé aux jeunes par le commandant de la police de la ville de Bounia. Cela au regard des tensions qui règnent dans la ville après la mort de 15 civils tués la semaine dernière par un groupe de miliciens de la Codeco, réfractaires au processus de paix. Au cours d'une parade tenue mercredi dernier au quartier Kindia, le colonel Abeli Mwangu a exhorté les jeunes à adopter un comportement responsable. Il est dit au micro d'Ezekiel Mouzalia.
L'état d'esprit de la population est bon, mais ces derniers temps, il y a une psychose qui règne dans la ville suite aux tueries qui se sont déroulées au début de ce mois de janvier, février ici, dans les territoires de Djougou. C'est ainsi que la ville est toujours dans une psychose où on ne sait pas les jours. Il y aura enterrement de ces corps-là. J'ai sensibilisé les jeunes à ce qu'il y ait un climat de paix, un climat d'accalmie, pour que nous puissions enterrer dignement nos frères qui ont été massacrés lâchement par des ennemis de la paix. Nous les avons interpellés pour qu'ensemble, nous puissions parler le même langage, le langage de la paix, le langage de la sécurité. Comme vous le savez, la situation sécuritaire, c'est devenu une situation où c'est tout le monde. Nous n'avons qu'un seul pays. Ça ne sert à rien de manipuler au jour le jour. Et il y a des morts d'hommes, là ça ne va pas. Nous devons cultiver la paix, l'amour entre les communautés, l'amour entre le peuple, pour qu'ensemble nous puissions reconstruire notre pays en général et surtout notre province, la province de l'Ituri, qui a beaucoup d'atouts pour se développer, malheureusement, l'insécurité.
Et pendant ce temps, en Nord Kivu, des véhicules blindés de la SADC ont été touchés hier jeudi par deux bombes dans la cité de Sake, en groupement de Kamuronza. Le bilan de cette explosion fait état de deux personnes blessées, dont un civil et un militaire du contingent tanzanien. Par ailleurs, les chefs d'état-major généraux du Malawi et de la Tanzanie ont été les premiers à atterrir à l'aéroport international de Goma en début d'après-midi. Selon les sources, ceux de l'Afrique du Sud et du Burundi étaient aussi arrivés hier jeudi. Si ces responsables militaires n'ont fait aucune déclaration aux médias, tout porte à croire que c'est en prélude d'une réunion prévue ce week-end à Goma. Rappelons que la mission de la SADC en RDC, SAMI-RDC, a été déployée depuis le 15 décembre 2023 à Goma. Elle vient en soutien aux efforts de la RDC pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays. Et toujours au Nord Kivu, la population ainsi que tous les groupes sociaux et les églises sont appelés à se mobiliser pour assister les familles déplacées se trouvant dans des sites autour de Goma. Cet appel a été lancé par l'organisation Un Jour Nouveau après une visite au camp des déplacés de Lushagala au quartier Mugunga. Les conditions de vie de ces familles sont inhumaines et devraient interpeller toute la communauté, déclarent les promoteurs de l'organisation Un Jour Nouveau. Des détails avec Sifa Maguru.
Le calvaire qui traverse ces déplacés des guerres mérite d'être palpé du doigt, d'être vu de ses propres yeux pour se rendre compte du degré de la souffrance qui traverse ces familles, déclare le pasteur Camille Toto, promoteur du complexe Un Jour Nouveau.
Alors c'est un appel que je lance à toute personne de bonne volonté, toute personne généreuse, à bien vouloir voler au secours de nos bien-aimés. Pourquoi nous avons voulu que les élèves puissent assister à cela pour palper du doigt ce qui se passe réellement. Non pas seulement ce qu'ils apprennent à la télévision ou qu'ils entendent à la radio.
Ces personnes manquent d'eau potable, d'abri, de nourriture et tous les besoins vitaux, explique-t-il.
Qu'est-ce que nous avons constaté ? Eh bien, nous avons vu des personnes qui vivent dans des conditions abjectes, dans des hébergements qui ne sont pas adéquats. Ils n'ont pas suffisamment d'eau, pas suffisamment de nourriture, pas suffisamment de vêtements et les conditions de sécurité ne sont pas non plus garanties. Ces conditions d'hébergement les exposent aux intempéries climatiques.
Au cours de cette visite, l'organisation Un Jour Nouveau a pu assister au moins 2000 familles en vivres et non-vivres collectés grâce aux contributions des familles, de son personnel et des personnes de bonne volonté.
Et puis la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, sera commémorée cette année sous le signe des deuils, notamment dans la ville de Beni, au Nord Kivu. L'annonce a été faite hier jeudi par la responsable du bureau urbain du genre, famille et enfants. C'était après une réunion avec différentes associations féminines locales. Selon Ruth Sabouni, cette décision est un acte de compassion avec les populations affectées par l'insécurité dans l'est du pays. Elle explique au micro de Marc Marofimbu.
Nous avons martelé dans notre ordre du jour par rapport au comportement à tenir au courant de l'effectivité de ces activités. C'est-à-dire, au niveau de Beni, nous avons prévu deux grandes activités, à savoir la conférence à la date du 5, mais aussi le culte œcuménique qui sera tenu à la date du 8 même. Pendant ces 2 jours, nous sommes demandés de nous présenter à tenue noire. Nous implorons les mamans de respecter ces comportements, cette attitude, de ne pas me comporter durant ces journées, parce que au moins toute la communauté internationale, pourquoi pas notre pays, compatisse avec nous qui sommes la population de l'Est. La particularité à l'Aïn, c'est l'attitude du bébé que nous allons observer pour que nous puissions raisonner grand par rapport à ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire pour que la paix soit rétablie chez nous.
Au sud Kivu, la mission tripartite MONUSCO, système des Nations Unies, gouvernement congolais, a conféré jeudi avec les acteurs locaux et les déplacés internes de Mikenge. Ce village est situé dans le secteur d'Itombwe, dans les hauts plateaux du territoire de Mwenga. Cette mission d'évaluation de la mise en œuvre du plan de transition et du désengagement de la mission onusienne s'est focalisée sur 3 points au cours d'une grande réunion tenue sur place à Mikenge. Fiston Goma pour plus de détails.
22 personnes ont pris part à cette réunion, parmi lesquelles les acteurs locaux, les représentants des FRDC, de la police, des services de sécurité, de la jeunesse, des femmes, des communautés locales, toutes tendances confondues. Le premier point a porté sur l'éventuel retour des personnes déplacées internes dans leur village avant le retrait de la MONUSCO dans la région. Le président du comité des déplacés internes, Yoshua Basanda, a souligné que ces retours dans les villages d'origine s'avèrent impossibles pour l'instant, étant donné la présence des groupes armés dans ces villages. Il a souhaité l'augmentation de l'effectif des FRDC dans le village Kibogirwa et Kianama dans les secteurs de Tombwe, ainsi qu'à Kalingi et Kamombo dans les territoires de Fizi. Le deuxième point concernait l'aspect humanitaire. La région étant enclavée, la recommandation a été formulée à l'endroit du PNUD de prendre compte du secteur de Tombwe dans les programmes des 145 territoires pour faciliter la réhabilitation de la route entre Mikenge et Baraka qui se trouve dans un état piteux. Enfin, le troisième point a porté sur le plan de transition. Les outils qu'utilise la MONUSCO seront transférés au système de l'ONU pour appuyer les gouvernements, signalant qu'aucune date de la fermeture de la base de la MONUSCO Mikenge n'a été annoncée. La délégation poursuit en ce moment des consultations à Uvira avec la société civile. D'Uvira, Fiston Goma Mayabala, Radio Kapi.
Un nouveau bac d'une capacité de 30 tonnes a été mis à l'eau hier jeudi au site Chani Metal, ici à Kinshasa. Baptisé bac de l'Ediba, il va assurer la traversée sous la rivière Kwa entre les villages de l'Ediba et Masiakwa dans la province du Maïndombé. Ce moyen permettra le transport des personnes, des biens et autres véhicules. Il rentre dans un vaste programme visant à désenclaver ces coins du pays. D'autres précisions dans ce reportage de Marie-France Mungindou.
Ce bac est une œuvre de l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt EICPIF dans le cadre du projet intégré RED Plus dans le Maïndombé. Paulin Sato, délégué du groupe Chani Metal Constructeur.
Ce bac a une longueur de 15 mètres, la largeur est de 7 mètres. Il est doté de 2 moteurs de 120 chevaux.
Sa construction intervient dans le cadre d'un vaste programme qui englobe notamment la réhabilitation de routes et la construction en cours des quais d'accostage de part et d'autre de la rivière Kwa. Pour ces initiateurs, la mise en service de ces bacs aura un impact positif sur la communauté locale. Elle permettra de créer des emplois, mais aussi de faciliter l'évacuation des produits agricoles issus des investissements et initiatives RED implantées par la communauté locale. L'abbé Jean-Paul Lokoutou, coordonnateur provincial des groupes du programme Climat RED, qui représentait la population de Maïndombé, s'est dit satisfait par cette œuvre tant attendue.
Je suis satisfait au nom de cette population. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué pour que cela soit une réalité, notamment le ministère l'environnement.
Notez que ces projets bénéficient de l'appui de la Banque mondiale.
Dans la province de la Tchopo, les agents et cadres de la Direction générale des recettes, DGRPT, ont suspendu leurs activités depuis mercredi dernier. Ils ont scellé le portail de l'entrée principale de leur bâtiment administratif. Ils réclament le paiement de 27 mois d'arriérés de salaire. Selon leurs représentants, ils sont surtout mécontents de constater qu'ils sont payés au taux de 550 francs congolais le dollar, alors qu'ils mobilisent les fonds au taux de 2733 francs congolais. En outre, cette modique somme subit une réduction de 3% de l'IPR exigée par l'inspection générale des finances. Un agent de la DGRPT qui a requis l'anonymat explique au micro de Jacques Moukonkolé.
Nous sommes à plus de 20 mois d'arriérés des salaires, dont plus de 6 mois qui rentrent dans l'actif du nouveau gouverneur. Malgré tout ce que nous faisons pour mobiliser les recettes, nous ne sommes toujours pas payés. Dans les mois passés, nous avons déclenché les mouvements de grève qui a duré presque un mois. Par l'entremise de l'ancien DG Hilaire, nous a demandé de réouvrir les portes et après 10 jours, nous serons payés. Et cette situation est allée jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais été payé. Deuxième chose, c'est par rapport au taux par lequel nous sommes payés. Nous mobilisons les recettes au taux de 2733 comme actuellement, mais nous-mêmes nous sommes payés au taux de 550 francs congolais. Tout ce que nous demandons, c'est d'être payés et surtout au taux par lequel nous mobilisons les recettes. Troisième problème, c'est la situation des inspecteurs nationaux de l'IGF qui sont ici à Kisangani, qui sont en train de suivre les chaînes de dépenses au niveau du gouvernorat. Ils nous ont affirmé que dans les chaînes de dépenses présentées par le gouvernorat, notre salaire n'y figurait pas. Et à notre grande surprise, aujourd'hui, lui-même, nous venons d'être payés et la prime, on voit que l'IGF a obligé à l'employeur de retenir les 3% par rapport à l'IPR.
Notez que la directrice générale de la DGRPT promet de se prononcer sur ses doléances de ses collaborateurs après concertation avec sa hiérarchie.
Actualité internationale.
Au Tchad, l'opposant Yahya Diallo est mort mercredi 28 février des suites de blessures qu'il a reçues dans l'assaut du siège de son parti. L'annonce a été faite par le procureur près les tribunaux de grande instance de N'Djamena, Oumar Kébélaï, lors d'une conférence de presse. Il y aurait eu des dizaines de blessés et des morts et 26 personnes sont interpellées, toujours selon le procureur.
L'invité.
L'invité de ce journal est le directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. Charles Balagizi parle de la sécurisation du matériel de surveillance des volcans installés dans quelques quartiers et qui sont souvent vandalisés par des inciviques. Il s'entretient à ce sujet avec Sifa Maguru.
Bonjour messieurs.
Bonjour madame la journaliste.
Est-ce qu'il y a d'autres défis en dehors des aspects techniques? Est-ce qu'il y a d'autres défis enregistrés ça et là par rapport à votre travail?
Oui, il y a des défis, et les défis, c'est par rapport à la population. Donc, on a certains senseurs, n'est-ce pas, qui sont comme des petits boîtiers, n'est-ce pas, qu'on déploie pour mesurer la température ou bien la déformation de sol. Et la plupart des fois, c'est vandalisé. Et donc, je souhaite encore, à travers votre micro, n'est-ce pas, et rappeler la population de Goma que ce matériel, c'est pour nous sécuriser, nous tous. Et donc, ils sont appelés à les protéger parce que plus ce matériel est fonctionnel, n'est-ce pas, plus nous avons des informations, des qualités à fournir, n'est-ce pas, à la population.
Est-ce que la population les identifie bien? Ça ressemble à quoi? On les vandalise expressément ou comment?
Oui, c'est connu, nos sites de mesure, nos stations sont connues, n'est-ce pas? Nous avons eu à discuter avec des points de relais qui peuvent être comme des chefferies et tout ça, pour essayer un peu de vulgariser, donc c'est connu. Et donc, on rappelle encore une fois que ce matériel est fait seulement pour surveiller le volcan. Il ne sert à rien d'autre. Ça, c'est le message que j'aurais aimé faire passer à la population, n'est-ce pas? Et aussi dire que, voilà, il y a des populations qui sont déplacées, on est des cœurs avec eux, et donc on a des endroits dans Goma où la concentration des gaz est très élevée, n'est-ce pas? C'est ce que nous appelons communément les mazoukou. Et donc, nos frères qui se sont déplacés devraient tirer beaucoup d'attention, n'est-ce pas? Ne pas se promener en dehors des zones qui sont indiquées dans les camps, parce que nous travaillons avec les partenaires, les collègues qui travaillent dans les camps pour donner une vie plus ou moins acceptable pour nos frères. Et donc, on a fait un travail d'identification des sites qui sont propres et ceux qui sont impropres, n'est-ce pas? Et donc, on invite tout le monde, n'est-ce pas, à respecter ces délimitations pour des raisons de sécurité, parce que c'est quelques minutes seulement et on est vraiment fauché, on perd la vie.
Brièvement, pour ceux qui n'ont aucune idée, c'est où, par exemple, par rapport à la ville de Goma, où sont les endroits qui sont dangereux par rapport au gaz?
Par rapport au gaz, on a la région de Boulengo, n'est-ce pas, et Lac Vert, qui sont des endroits qui ont des concentrations de gaz les plus élevées, qui sont mortelles, n'est-ce pas? Dans le temps, on avait fait des panneaux de signalisation, mais ça avait encore été vandalisé. Mais on a fait quand même de nombreuses campagnes de sensibilisation. On va encore les relancer parce que il y a des populations qui sont nouvellement déplacées vers la région de Goma et ses environs, et donc qui ne sont pas au courant de cette situation. Et donc, on invite tout le monde à nous aider, n'est-ce pas? Une parole peut sauver une vie, n'est-ce pas? Quand nous avons notre frère qui vient de Masisi, qui vient de Rutshuru, qui vient de Sake, de Kiroche, enfin, de partout, qui arrive dans une région, tout le monde peut faire passer le message. Et d'ailleurs, on était sur le terrain, je crois, mardi, et on a trouvé qu'il y avait des gens qui venaient de Sake, qui se sont installés à proximité de ce site. Et on n'a pas traîné, on a informé les partenaires qui sont impliqués pour essayer un peu de prendre des mesures. On a également le coin de Kieshero, n'est-ce pas, où vous pouvez trouver aussi de petites poches des concentrations de CO2 assez élevées. Et donc, les concernés sont informés. On y passe régulièrement pour faire des mesures et donc que les gens puissent tirer beaucoup d'attention. Si vous avez un visiteur, vous avez accueilli un familier qui vit chez vous, qui vit chez le voisin et tout ça, surtout les enfants, des grâces, il faudrait leur montrer les points les plus dangereux de manière à ce que chaque vie compte.
Merci beaucoup, monsieur le directeur.
Je vous en prie, madame.
Okay.
C'était notre invité, le directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma, Charles Balagizi, qui s'entretenait avec Sifa Maguru. Fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.